Je propose que nous étudions ce matin un passage de l'évangile de Luc. Alors, la semaine dernière, nous avons étudié le début du chapitre 5 et je propose que nous regardions le début du chapitre 4. Ici, une réalité de Jésus qui est confronté aussi à Satan, l'adversaire de Dieu, qui va chercher à le détourner de sa mission. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain. Il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et quand cette période fut passée, il eut faim. Le diable lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole de Dieu. » Le diable l'emmena plus haut, sur une haute montagne, et lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Puis il lui dit, « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. » Jésus lui répondit, « Retire-toi, Satan. En effet, il est écrit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras et c'est lui seul que tu serviras. » Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça au sommet du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera à ton sujet ordre à ses anges de te garder, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui répondit, il est dit, « Tu ne provoqueras pas le Seigneur ton Dieu. » Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. On va s'arrêter là dans notre lecture. Jésus a 30 ans. Avant de démarrer son ministère public, Jésus passe par deux étapes qu'on pourrait appeler de transition. Tout d'abord, le baptême. Alors, on n'a pas lu le texte qui parle de son baptême, mais il va se faire baptiser du baptême de repentance de Jean-Baptiste. Et cela peut nous surprendre parce que Jésus n'a jamais péché. Et ce qu'Adam, le premier homme, n'avait pas réussi à faire dans un monde créé parfait, Jésus, lui, l'a accompli dans le monde déchu. Il n'avait pas besoin donc de se repentir, mais il a tenu à s'identifier avec les hommes et les femmes de sa génération, ces hommes et ces femmes pécheurs, en se faisant baptiser. Et ce fut l'occasion pour Dieu de manifester, d'exprimer, d'attester le caractère divin de Jésus. Non seulement par la manifestation de l'Esprit qui est descendu sous la forme d'une colombe, mais aussi par la voix qui s'est fait entendre du ciel, la voix de Dieu le Père, disant « Tu es mon Fils bien-aimé, tu as toute mon approbation ». Ça, c'est la première étape de transition. Et puis la deuxième, on l'a lu dans ce texte ce matin, conduit par le Saint-Esprit dans le désert, où il n'a pas mangé pendant 40 jours, il a été confronté à Satan qui cherchait à le détourner de sa mission. On peut se demander pourquoi cette étape. Il devait passer par la tentation parce que c'est le propre de l'homme que d'être tenté, parce qu'il devait y être confronté pour s'identifier à nous et parce qu'il devait aussi réparer l'acte d'Adam qui, bien que créé parfait, avait cédé à la tentation et avait transmis le péché à toute l'humanité. Et il est intéressant de noter ici que le fait d'être conduit par le Saint-Esprit ne conduit pas forcément à des situations faciles à vivre. On est encouragé à être guidé par le Saint-Esprit, à nous laisser guider. Mais là, on voit que Jésus a été guidé par l'Esprit pour vivre quelque chose qui était éprouvant. C'est vrai, qui donc aimerait passer 40 jours dans le désert, sans manger, et passer au crible par Satan? Pas moi, en tout cas. Alors, de ces 40 jours, il ne nous est rapporté que 3 tentations vécues par Jésus. mais elles sont comme un échantillon représentatif de toutes les tentations auxquelles il a été exposé, sans jamais y avoir cédé. Et ces trois tentations que nous rapporte Luc, mais aussi les autres évangiles, mettent en évidence la différence entre Adam, le premier homme, et Jésus, qui lui est exposé aux mêmes tentations, a vaincu là où Adam avait échoué. Et je crois que c'est important de se rappeler que Jésus a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché, nous dit l'Épître aux Hébreux, chapitre 4, verset 15. Jésus sonne le glas de l'assujettissement de la race humaine à la puissance du péché. C'est une bonne nouvelle. Oui, il est possible de ne pas pécher. Jésus l'a fait. Et sa victoire sur le péché permet à Jésus d'offrir le salut à l'humanité tout entière. Alors je vous propose que nous regardions ces trois tentations, voir un petit peu ce que nous pouvons en tirer. La première tentation est décrite donc dans ces paroles du diable. « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à ces pierres de devenir du pain. » Pourquoi est-ce qu'il a choisi Il a choisi un moment où Jésus avait faim, très faim, probablement extrêmement faim, 40 jours sans manger, pour faire cette suggestion à Jésus. Jésus a bien évidemment le pouvoir de changer les pierres en pain. Satan le sait. Et nous voyons d'ailleurs que c'est ce que Jésus a fait. Alors, il n'a pas changé des pierres en pain, mais il a multiplié le pain à plusieurs reprises, à deux reprises. Multiplication miraculeuse des pains. On pourrait dire, ce que Satan propose, pourquoi pas? Mais pourquoi cette proposition de Satan est-elle irrecevable? À quelle tentation Jésus doit-il résister? Pourquoi Jésus ne peut-il pas assouvir un besoin légitime, celui d'assouvir sa faim physique? Jésus est ici dans une situation qui est contradictoire. Entre son titre de fils de Dieu et son état de faiblesse, de souffrance à cause de la faim dans laquelle il se trouve depuis après 40 jours de jeûne. L'enjeu de la proposition de Satan est le fait que Jésus doit accepter totalement les conséquences de son incarnation. Il pourrait user de son pouvoir pour transformer ses pierres en pain. Mais à ce moment-là, il aurait renoncé à être homme, totalement homme. Et il aurait donc renoncé aussi au projet de Dieu, au projet de salut pour l'humanité. C'est ce que Jésus dit dans sa réponse. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole de Dieu. Jésus cite le livre du Deutéronome, d'ailleurs à trois reprises, les réponses de Jésus vont être des citations du Deutéronome. En soi, le fait de transformer une pierre en pain n'est pas mauvais. Le péché ici ne réside donc pas dans l'acte, mais dans la motivation. Le diable incite Jésus à prendre un raccourci par rapport à sa mission, à résoudre un problème urgent aux dépens de ses objectifs à long terme, à rechercher le bien-être en sacrifiant la discipline. Alors voilà ce que Jésus répond, oui, je pourrais le faire, parce que ça répondrait à un besoin légitime, mais ce qui prime, c'est mon obéissance à Dieu le Père, c'est de mener à bien ma mission. Adam, lui, quand il était dans le jardin d'Éden, il était dans un tout autre contexte. Jésus était dans un milieu désertique, l'expression finalement du monde déchu. Lui, Adam était dans un monde entouré de ce qu'on pourrait appeler, c'était le paradis sur terre, le jardin des délices. Il avait le droit de manger de tout, sauf d'un arbre. Il avait le droit de se rassasier, d'être comblé. Il y avait juste un arbre qu'il n'avait pas le droit de toucher. Et justement, c'est la seule nourriture qu'il a prise. Satan a cherché à susciter en Adam une insatisfaction. Il aurait pu être satisfait pleinement, 100 fois, 1000 fois satisfait de tout le reste. Mais Satan a suscité dans son cœur une insatisfaction par cet arbre aux fruits défendus. Le but de Satan était d'éliminer Dieu. Alors pour nous, pouvons-nous aussi transposer ce besoin réel de Jésus à toutes nos situations de manque, voire de détresse? La tentation est de placer nos besoins légitimes avant notre obéissance à Dieu. Et la question qui se pose à nous, c'est donc celle de nos priorités. Satan saura toujours créer en nous une insatisfaction sur le plan matériel. Et je pense que tous les jours, nous serons confrontés à ce genre d'insatisfaction qui nous piège. Je voudrais partager ce qui est comme note dans la Bible, second 21. Le fait qu'une chose ne soit pas mauvaise en soi ne signifie pas forcément que ce soit bon pour nous à ce moment-là. Beaucoup de gens pêchent en essayant de réaliser des désirs légitimes sans se soucier de la volonté de Dieu ni de son heure. Et pourtant, ce qui prime, c'est l'obéissance à Dieu. Et ça, c'est ce que Jésus avait bien compris. La deuxième tentation. Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée, je la donne à qui je veux. Est-ce que c'est vrai? Satan présente son pouvoir sur le monde comme légitime, comme étant reçu de Dieu lui-même. Ce monde est le mien, ce n'est plus celui de Dieu. Et puisque ta mission, Jésus, c'est de gagner le monde, moi je te l'offre. Et donc tu pourras atteindre ton objectif. Satan veut piéger Jésus par rapport à sa perception de l'autorité. Désobéis à Dieu et je te donne le pouvoir. Il lui propose un compromis, un raccourci. Jésus savait probablement que sa tâche était difficile. Il aurait pu être tenté par un petit peu plus de facilité. Mais si Jésus cédait à ce compromis, Satan n'aurait pas pu être brisé. On voit ici que Satan est un usurpateur. Il est le prince de ce monde, c'est vrai, mais le pouvoir qu'il exerce sur ce monde, sur le monde, ce n'est pas Dieu qui lui a donné. C'est lui qui s'en est emparé. Faire allégeance à Satan n'est donc pas faire allégeance à Dieu, bien au contraire. C'est se mettre sous la coupe de son ennemi. Et le témoignage de Lynn nous l'a rappelé. Bien au contraire, c'est se révolter contre Dieu. Alors que lui répond Jésus? Il lui dit: c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras. C'est lui seul que tu serviras. Deutéronome 6, 13. Jésus n'a jamais eu de mal à reconnaître qu'il était sous l'autorité de son Père. Il ne cherche même pas à discuter avec Satan sur l'identité du véritable propriétaire du monde. Il refuse simplement catégoriquement de soutenir son affirmation. Il refuse catégoriquement de l'adorer. Car il sait qu'il rachètera le monde en donnant sa vie sur la croix et non en faisant alliance avec un ange déchu. Adam, on va revenir à Adam à chaque fois. Lui, de son côté, il régnait sur la création, hein, Dieu l'avait dit, de gérer la création, de dominer toute la création. Mais là encore, Satan est venu et il a réussi à convaincre l'homme que cette domination qui lui avait été donnée par Dieu n'était pas suffisante et qu'il pouvait avoir encore un plus grand pouvoir s'il désobéissait à Dieu. Désobéis et tu deviendras comme Dieu, avec une autorité totale. En ce qui nous concerne, nous sommes parfois un peu ou fortement désireux d'être notre propre chef, de ne devoir rendre compte à personne. Faire ce que je veux, quand je veux, comme je veux. Ah, on serait parfois tenté d'avoir cette devise. Ne nous arrive-t-il pas de prendre des raccourcis, de faire des compromis, parce que nous n'avons pas au plus profond de nous ce désir ardent d'adorer Dieu seul, de le servir lui seul? Car c'est ce qui prime, c'est d'adorer Dieu seul. Troisième tentation. Si tu es le Fils de Dieu, dit Satan à Jésus, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera son sujet ordre à tes anges de te garder. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. Christian nous l'a lu ce matin. C'est un passage qui s'adresse effectivement à ceux qui placent leur confiance en Dieu et que Dieu sera leur protecteur, leur protection. Mais Satan propose ici à Jésus une lecture erronée du psaume 91. Utiliser la puissance divine pour assouvir notre soif de sensationnel. Voilà ce que propose Satan. Alors on peut se dire, oui, l'homme, pour croire, nous on a besoin parfois d'un petit coup de pouce, de voir des choses extraordinaires faites par Dieu, et là, dans ce cas-là, on va croire. C'est ce que disaient les contemporains de Jésus, hein, fais donc des miracles et afin que nous puissions croire en toi. Donc que répond Jésus ? Jésus leur a toujours refusé ces signes. Cette génération, dit-il, est une génération méchante, elle demande un miracle, il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. Car de même que Jonas fut un signe pour les Ninivites, de même le Fils de l'homme sera un pour cette génération. Qu'est-ce que Jésus veut dire par là ? Que le seul signe qui est important pour croire, c'est Jésus mort et ressuscité. Le seul grand saut que Jésus pouvait faire, c'est celui qu'il a accompli 3 ans plus tard en mourant sur la croix et en ressuscitant. Tout autre signe aurait détourné les hommes de ce qui fait le cœur, le centre de la foi chrétienne. C'est pourquoi Jésus répond, « Tu ne provoqueras pas le Seigneur ton Dieu. » Tu ne provoqueras pas le Seigneur ton Dieu. En ce qui concerne Adam, la question que lui pose Satan est la suivante, « Mais Dieu, a-t-il réellement dit ?» Satan a essayé de retrancher les paroles de Dieu. Ève a essayé d'ajouter des choses à l'ordre de Dieu. Il ne conteste pas l'interdiction de Dieu, mais il conteste la sanction. Il va la minorer, la retrancher. La question est de savoir si d'ajouter ou de retrancher. Problème fondamental face à la parole de Dieu. Satan dit à Adam que la sanction était démesurée par rapport au délit. Il veut amoindrir les conséquences de la désobéissance et il lance un défi à Ève de prouver vraiment ce que Dieu avait dit. Satan a dit à Jésus une demi-vérité. Il cite la parole de Dieu, ça peut être que vrai. Mais elle n'est pas du tout dans son contexte. C'est donc une demi-vérité. Cela ne nous donne pas le droit de mettre Dieu à l'épreuve, dit Jésus. Il dit que procéder ainsi, c'est tenter Dieu. Dieu nous appelle à la patience et à la foi. Pas forcément à des choses, des signes extraordinaires pour croire. Car ce qui prime, c'est de faire confiance à Dieu et en sa parole. Jésus avait une mission dont il avait pleinement conscience, celle d'un jour aller mourir sur la croix pour nous. Mais Dieu nous donne aussi à nous, à chacun de nous, une mission. Peut-être savez-vous quelle est la vôtre en tant que disciple de Jésus. Peut-être savez-vous, ou vous ne savez-vous pas à quoi Dieu vous appelle cette semaine, les semaines qui viennent. Mais on peut se poser la question, cette semaine, à quoi Dieu m'appelle, en particulier en rapport avec le spectacle de Noël de la semaine prochaine et du groupe Découverte qui suivra. À quoi Dieu m'appelle-t-il cette semaine? Nous avons besoin d'être conscients de ce à quoi Dieu nous appelle. Et par rapport à cette mission, à cet appel, nous pourrons être aussi confrontés comme Jésus à différentes tentations. Tenter de ne pas mettre les bonnes priorités dans notre vie. La semaine dernière, Paul Dowling nous a invités à aller sur le lac, à monter dans la barque et à nous placer, nous positionner là où il y avait des poissons à pêcher. Le texte que nous venons de lire ce matin nous invite à préciser cela. Tout comme Jésus devait vivre en tant qu'homme, pleinement homme au milieu des siens, pour pouvoir un jour, 3 ans plus tard, les sauver, hommes parmi les hommes, je dirais que nous aussi nous devons devenir poissons parmi les poissons, pour pouvoir les amener à Christ, pour pouvoir les atteindre. Jésus a partagé la souffrance liée à l'existence humaine. Nous aussi, nous sommes appelés à partager les souffrances de ceux qui se perdent loin de Dieu. L'Évangile, c'est donc non seulement parole, proclamation, mais c'est aussi compassion et générosité. Et je trouve personnellement intolérable que des gens puissent dire de nous que nous sommes trop parfaits ou inaccessibles, alors que nous ne sommes que des pécheurs graciés. Tout comme c'était la priorité incontournable de Jésus, cette proximité avec les autres ne doit-elle pas être celle de tout disciple Jésus qui est amené à poursuivre l'œuvre du Maître? Quelles sont mes priorités? Et quand nous irons vers les autres cette semaine, que le pain que nous leur donnerons soit aussi l'occasion de leur parler de ce Dieu d'amour qui nous a sauvés par grâce. Tout comme Jésus, nous pouvons être tentés d'exercer un pouvoir illégitime sur les autres. Nous sommes appelés à être des témoins, mais à ne pas jouer le rôle du Saint-Esprit qui lui a la charge de convaincre. Ceux à qui nous parlons ne doivent pas devenir nos disciples, mais les disciples de Christ. Si nous aidons une personne dans son cheminement, c'est toujours en laissant la primauté à Dieu, d'avoir cette attitude de Jean-Baptiste qui disait « il faut qu'il croisse et que je diminue ». Nous n'avons pas à nous mettre en avant, nous n'avons qu'à montrer Christ. Amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ, dit Paul. Et nous pouvons nous poser la question, ma vie montre-t-elle l'autorité dont je dépends? Laissons-nous Dieu diriger toute notre vie. N'en prenons-nous pas trop facilement les rênes? Et quand nous rendrons témoignage cette semaine, manifestons avec joie notre dépendance de celui à qui nous avons confié notre vie. Et puis par rapport à la troisième tentation, tout comme Jésus a été tenté, non, il n'a pas été tenté, mais on lui a proposé un texte biblique tordu. Il y a un réel danger d'ajouter ou de retrancher. Nous devons, quand nous ne savons pas, avoir l'humilité de dire « je ne sais pas ». Nous ne pouvons pas tout expliquer parce qu'il y a des choses inexplicables. Et tenter de vouloir expliquer toute chose nous amène à tordre ou à dépasser largement ce que la Bible en dit. Nous ne pouvons pas vouloir expliquer un texte biblique hors de son contexte, parce que c'est entordre le sens. Et parfois, on essaye de justifier notre propre attitude ou nous approprier des promesses en sortant un texte de son contexte. Recherchons l'illumination du Saint-Esprit pour comprendre ce que Dieu dit dans la Bible et pour nous y conformer. Face à la tentation, qu'a fait Jésus? Il a cité les Écritures. Lui qui était Dieu, mais en tant qu'homme, il avait besoin de se rattacher à ça. Nous aussi, ne nous croyons pas supérieurs au Maître. Appuyons-nous sur ce que Dieu dit dans la Bible. Et quand nous rendons témoignage, ne cherchons pas à éblouir, par autre chose que l'essentiel, à savoir la mort et la résurrection de Jésus. Au travers des trois tentations qui nous sont rapportées ici, il y a toujours cette volonté de Satan d'éloigner Jésus de sa mission. Et notre but, c'est toujours aussi à nous de rapporter, d'orienter les autres vers la mort et la résurrection de Jésus. Il n'y a rien de plus essentiel que cela. C'est ça qui est la source de notre foi. Je vous invite à la prière.